Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Le terroir des Charrettes, entre Durance, Chaîne des Alpilles et Cours du Rhône, grosso modo. Un terroir qui est le cadre de ces fêtes villageoises, des charrettes bénies, mais aussi plus tard, dans l'histoire et de nos jours, des charrettes religieuses et laïques. La charrette des blancs et la charrette des rouges. Des charrettes décorées de fruits, de céréales, de légumes, de fleurs. Ainsi, les travaux des champs et les travaux des métaux sont célébrés chaque année. La matinée des autres, première diffusion sur France Culture, le 27 septembre 1994.
La matinée des autres. La charrette ramée de la Saint-Éloi, Mayanne, 23-26 juillet 1994. Une émission de Patrice Frédieu. La course de la charrette ramée figure dans de nombreuses réjouissances villageoises qui se déroulent de la mi-juin au début septembre dans différents villages de la Provence mistralienne entre Rhône, Alpilles et Durance. Ces fêtes très anciennes, celle de Mayanne, pays natal de Frédéric Mistral et l'une des plus réputées, célèbre Saint-Éloi, protecteur des métiers des métaux et des agriculteurs. C'est en son honneur que se déroulent chaque année les cavalcades processionnelles de la charrette ramée, chars garnis de verdure, de fleurs, de fruits ou de blé, et tirés par des chevaux somptueusement harnachés. Plus qu'une fête folklorique, la course de la charrette de la Saint-Éloi est l'expression authentique d'un terroir, une fête qui, par son prestige, a réussi à éclipser toutes les autres. Marie-France Gosquin.
Les charrettes festives provençales sont, pour ma part, sous des apparences diverses, je dirais au même titre que les colosses rituels du nord de la France, autant de signes de reconnaissance et d'appartenance, disons, à un village, à un pays, à un groupe, à une idéologie, qu'elle soit politique ou religieuse. Ces charrettes sont l'expression d'un espace bien défini dans ce qu'on peut appeler la Provence rhodanienne, un territoire calé entre le Rhône et la Durance, bordé au sud par la chaîne des Alpilles et au nord-ouest par les arrondis dénudés de la Montagnette. En réalité, c'est une sorte de triangle sacré qui vit naître le Félibrige et son inventeur célèbre Frédéric Mistral. Alors c'est ici que s'inscrit ce qu'on peut appeler la zone des charrettes, qui se compose d'environ 18 villages, dont seulement 11 organisent cette fameuse charrette festive. On pourrait même dire plusieurs, car c'est vrai, certaines localités peuvent en appareiller jusqu'à 2 ou 3.
Nous appelons ça ici la carreto ramade, c'est-à-dire la charrette recouverte de feuillage, ce qui en provençal s'appelle la rame, et l'adjectif c'est ramade. Et la rame, c'est du peuplier, c'est du sol, c'est de l'osier, c'est n'importe quel arbre qui pousse un peu dans la campagne, comme ça. Voilà. Et il y en a d'autres qui, par contre, sont fleuris. C'est un symbole, la charrette, ce que nous appelons la charrette ramade, excusez-moi de le dire en provençal, c'est plus commode, c'est un symbole, c'est le symbole vivant de l'agriculture, hein, et aussi de ce que le pays, de ce que les hommes du pays ont de particulier, ont en matière de culture, de tradition, de personnalité, si vous voulez. Voilà. C'est comme ça que c'est un symbole. Ça représente, ça glorifie, ça représente le plus profond de la Provence rurale, là, et ça glorifie aussi les productions, la terre elle-même, la production et tout ça. Voilà. En gros, c'est ça. Et par l'intermédiaire, avec le cheval. Et tout ça est placé sous le patronage, en principe, de Saint-Éloi, qui est le patron, le patron antique de l'agriculture chez nous.
Saint-Éloi, aide-nous à reconnaître que chacun d'entre nous, on sait peu, on connaît peu. Donne-nous de obéir par amour, par humilité, à l'enseignement de l'Église, au Saint-Père. Donne-nous, Saint Éloi, de suivre nos évêques. Toi, tu en étais un et tu as su très bien mener ton troupeau. Vous, les évêques, vous avez, Saint Éloi, tu en fais partie, une grâce particulière. Donne-nous de savoir suivre nos bergers pour que, un jour, nous nous retrouvions tous dans la grandeur, la magnificence et le bonheur éternel de notre Père.
Saint Éloi est un saint qui est très populaire en France, particulièrement, je dirais, dans la région nord de la France, où il continue d'être fêté, notamment chez les métallurgistes de l'industrie automobile. Et on le trouve chez Renault, à Douai, par exemple. Et puis, bien sûr, en Provence. Alors, sa notoriété est fondée sur sa générosité et son adresse dans l'art de l'orfèvrerie. Éloi est un individu donc, qui naît au VIe siècle dans le Limousin, très exactement à Chaptelat. Habile de ses mains, il prend très tôt le goût pour le travail du métal. Après son apprentissage chez un maître orfèvre de Limoges, il se rend à Paris où il obtient la charge de monétaire auprès du trésorier royal. Particulièrement apprécié par Clotaire II, il en devient son conseiller et son orfèvre personnel. Le successeur de Clotaire, le roi Dagobert, le fameux roi Dagobert, va le nommer trésorier. À la mort de ce monarque, Éloi va se faire ordonner prêtre et fondera un monastère près de Limoges. Mais on va le retrouver à Noyon, dans le Nord, où il va terminer sa vie et où il sera nommé évêque en 641. D'ailleurs, il fondera l'église des Dunes, qui aurait, paraît-il, donné naissance à la ville de Dunkerque. En 660, Éloi meurt et aussitôt, il sera honoré comme saint. Bon, à cette histoire raisonnable, édifiante, l'imagination populaire conçut une légende qui affirme que, avant de venir cet orfèvre si remarquable et l'évêque inspiré que l'on vient de voir, Éloi aurait, dit-on, pratiqué le métier simple de maréchal ferrant. Et c'est ainsi que naquit le miracle de ce qu'on appelle le pied coupé ou du cheval ferré. C'est un thème qui parcourt enfin la Flandre, l'Italie, l'Allemagne et la France. Alors que dit ce récit ? Il évoque l'histoire d'un maréchal ferrant dont la devise était « Éloi, maître sur tous ». Un jour, alors qu'Éloi s'apprêtait à clouer des nouveaux fers au pied d'un cheval, il reçut la visite d'un homme qui prétendait posséder une adresse plus grande encore que la sienne. Médusé, il le vit alors trancher d'un seul coup le jarret d'un cheval, limer la corne de son pied et y fixer le fer. Toutes ces opérations effectuées sans aucune douleur pour l'animal. Bien entendu, Éloi, du haut de son importance, déclara qu'il en ferait tout autant. Mais quand, après avoir sans hésiter coupé un autre pied de ce cheval, il observa la chute de celui-ci au sol, il comprit aussitôt. Éloi réalisa que cet homme lui avait été envoyé par le ciel afin de lui faire entendre la modestie. Et aussitôt, il se mit à genoux et demanda pardon. Donc Saint Éloi fut adopté comme patron par de nombreuses corporations. On le comprend, les travailleurs des métaux revendiquèrent tout naturellement cet artisan du fer. On peut citer donc les orfèvres, les taillandiers, les chaudronniers, les forgerons, tout naturellement les maréchaux ferrants, les serruriers. Et puis, peu à peu, du fait de leur relation avec le cheval, les selliers, les charretiers, et encore, de proche en proche, les professions liées au transport, comme les mécaniciens et les garagistes. Ainsi, du fer au cuir, du muletier à l'animal, Saint Éloi devint le protecteur des chevaux, et par glissement, celui des propriétaires, les agriculteurs.
Vous faites là, non ? On a la coupe des branches très fines et très longues pour garnir les rayons de la roue de la charrette. Alors, il faut qu'elles soient fines, souples, parce que le jeu c'est de les entourer autour des rayons sans les attacher. Elles tiennent toutes seules, il suffit de les mettre dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens inverse du mouvement de la roue. Voilà. Alors, C'est toujours très délicat quand il n'a pas plu d'avoir des tiges très longues parce que ça avance pas, le bois ne travaille pas et elles sont plus raides et on a des difficultés.
Bon, mais ça, je vais vous chercher surtout ce qui a trait à la... J'ai essayé de définir géographiquement, si vous voulez, le terroir de la Charrette. Hein. Voilà, c'est cette partie. C'est dans ce qu'on appelle un triangle, le triangle d'or, le triangle sacré, le triangle mystérieux, mais tout ça, c'est de la littérature facile. En vérité, il y a une portion de territoire qui est limitée à l'est par la Durance, hein, que vous voyez là. La Durance venant se jeter ici dans le Rhône. Bon, si on tire au droit, ça fait les trois parties, les trois machines d'un triangle.
C'est un triangle de fertilité. Oui.
Voilà, c'est un triangle symbolique. En vérité, ça a une forme trapézoïdale. Enfin, mettons le triangle qui a pour base la chaîne des Alpilles, qui a pour base la Durance entre Sénas et avec un petit contour et Barbantane, ou Rognona, là où la Durance serait en jeu, et puis le cours du Rhône jusque à Fontvieille, par là. Hein. Et il n'y a que dans cette partie des bouches du Rhône et de la Provence où on fait courir la charrette, depuis la fin ou le milieu du XVIIIe siècle à peu près. Dans toutes les autres communes, on fête la Saint-Éloi avec les chevaux, mais il n'y a pas d'attelage, ou alors c'est de petits attelages séparés. On trouve beaucoup de des fêtes très particulières, notamment dans le Var, à Signes, là-bas, ou bien à Gémenos, ou à Cuges, et même à Marseille, parce que, ça va vous étonner, en 1683, depuis le Vieux-Port jusqu'à la plaine Saint-Michel, c'est-à-dire en remontant la Canebière et en tournant sur la droite au bout, hein, il y avait les jardiniers de Marseille et les muletiers qui fêtaient Saint-Éloi. On fêtait Saint-Éloi sur le Vieux-Port, et il y avait des rites qui ne sont pas tout à fait les nôtres, mais qui se sont maintenus dans tous les villages du terroir marseillais et du Var, où on fait toujours la charrette. Voilà, c'est encore une carte. Alors voilà un portrait de Saint-Éloi, un tableau de Saint-Éloi. Il y a une imagerie populaire extrêmement assez nombreuse, et de qualité, et très intéressante et très instructive. C'était des tableaux et des drapeaux de saints. Vous savez qu'à nos charrettes, nous avons de petits drapeaux en papier. Tout ça était fait à Avignon, qui était un grand centre, Avignon, d'imagerie, d'imprimerie. Et il y avait des confréries partout. Et chaque confrérie avait sa bannière, enfin son fanion plutôt, ou des images comme ça. Alors voilà une image de Saint-Éloi, vous voyez, patronne des maréchaux, avec la représentation du forgeron ou du maréchal Ferrand, et une représentation de la charrette, vous voyez, assez curieuse. Voilà le véritable attelage de la charrette, et voilà la façon dont le charretier l'accompagne, c'est-à-dire qu'il est à pied, et qui tient son cheval par la bride, et qui se met sur le côté gauche. Hein. Voilà, ça, on tenait ici, dans le temps, quand il y avait le roulage, hein, quand il y avait des rouliers dans toute la France, partout, en Provence, on tenait les chevaux par la bride en se mettant sur la gauche de la bête. Ce qui, en provençal, se disait de la main. Et à partir de Lyon, on se mettait de l'autre côté. Et ça s'appelait forement, hors la main. Voilà. De même que... on ne montait pas sur la bête parce qu'il ne fallait pas la fatiguer plus qu'il n'était raisonnable. Mais comme la charrette ramade, c'était une fête, on mettait surtout... Alors, il y avait les hommes qui montaient, les fouetteurs. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on ne voit plus. Vous voyez ? Ou qui s'estompe.
On ne voit plus, les charretiers montent les chevaux.
Il y a les charretiers, il y a les fouetteurs, mais maintenant vous avez un groupe d'enfants qu'on appelle les petits fouetteurs, et qui défilent devant, qui font claquer le fouet, mais ça n'existait pas, ça, avant. C'était les ouvriers de ferme, ou les fils du fermier, qui montaient à cheval, et qui faisaient claquer du fouet.
C'était de véritables artistes du fouet, là, à l'époque.
Il fallait tenir l'équilibre, mais il y avait de véritables artistes du fouet. Et il y avait des gens qui faisaient claquer, qui étaient capables de faire claquer deux fouets à la fois, et des fois quatre fouets, il y en avait qui tenaient deux fouets dans la même main. Bon, ça, c'était de petites histoires de prouesse, mais voilà ce que c'était, ce qu'on ne voit plus guère.
Le culte de Saint-Éloi inclut deux célébrations. Il y en a une en hiver, qui a lieu le 1er décembre, qui est le jour anniversaire de sa mort, et une autre en été, le 25 juin, pour la translation de ses reliques. Alors cette fête d'hiver est honorée par les gens du métal, alors que la fête d'été est honorée par les gens de la terre, les agriculteurs. En Provence, on peut dire que son culte prit une telle importance qu'il en vint à éclipser un autre saint vraiment tout aussi important qui était Saint Jean, et dont la fête tombait, ou tombe toujours, le 24 juin, qui donnait aussi lieu à d'importants cortèges de chevaux. Effectivement, on y voyait des ânes, des mulets, très précieusement décorés, au même titre que ceux de Saint-Éloi aujourd'hui. Si ces cavalcades de la Saint-Jean ou de la Saint-Éloi accordent au cheval cette place centrale, c'est que, dans la croyance populaire ancienne, cet animal est considéré comme un intercesseur décisif et privilégié, je dirais, pour la fécondité agricole.
Il y a 25 ans, on allait beaucoup moins loin parce qu'il n'y avait pas de maladie. Les ormeaux sont malades aujourd'hui. Avant, il suffisait de faire 200 mètres, il y avait des ormeaux partout. Et donc les gens venaient avec une charrette, un cheval, on chargeait ça, on les mettait dans l'eau jusqu'à l'après-midi, le pied dans l'eau, les branches pour éviter qu'elles se sèchent trop. Maintenant, disons que les choses se font presque industriellement.
C'est un nom ce lieu là,
ça. Oui, ça c'est un quartier qui est au sud du village, c'était des quartiers bas en fait. Le nom du quartier c'est les fontanilles, c'est-à-dire les petites fontaines, c'était un lieu très humide.
Alors dans certaines localités, Saint-Éloi doit affronter la concurrence d'autres saints protecteurs, et là je pense principalement à Saint-Roch et à Sainte-Madeleine.
Oui, alors dans une partie de la Provence,
Jean-Paul Kléber,
la Provence mistralienne, celle qui est autour de Mayenne, Barbantane, Graveson, etc., au nord des Alpilles, Saint-Éloi, était le principal patron des muletiers et des convoyeurs de charrettes. Et il a eu comme rival assez vite Saint-Roch, qui était lui alors le protecteur de la santé des troupeaux, qui protégeait contre la peste, etc., mais qui a été, par une espèce de bond de déviance de la géographie, qui est devenu le patron des rouliers et des muletiers. Et il s'est greffé là-dessus une espèce de concurrence entre, encore une fois, les riches et les pauvres, les royalistes et les républicains. Les royalistes étaient considérés quand même comme plus riches que les républicains, puisque c'était les gros propriétaires terriens opposés aux paysans pauvres. Alors, ce qu'on appelait les blancs, c'est-à-dire les royalistes, se sont mis à faire courir, comme c'est le terme exact, faire courir les charrettes sous la bannière de Saint-Éloi, et les rouges, c'est-à-dire les républicains, la faire courir sous le fanion de Saint-Roch. Et puis là-dessus encore s'est greffé, ça c'est des problèmes de jalousie entre villages, et puis de date aussi. Chacun voulait un petit peu sa charrette ramée à lui, originale par rapport à celle des autres. S'est greffé encore une troisième patronne, Madeleine, associée d'ailleurs à Marianne. Au début, c'était la Madeleine, Sainte Madeleine, et puis dans les effigies, dans les fanions, par exemple, est apparue peu à peu la figure de Marianne républicaine.
Voilà la charrette du Front Populaire en 1936 à Châteaurenard, avec les drapeaux rouges. Et cette charrette qui sort toujours à Châteaurenard, qui s'appelle la Madeleine, c'est plus Sainte-Madeleine, c'est la Madeleine, défile aux accents de l'international. Toujours. Et pourtant Châteaurenard est une ville qui est une ville de centre, ou de centre droit, ou de... C'est vous dire.
Donc ça c'est la charrette du Front
Populaire. Ça, c'est la charrette du Front Populaire en 1936, voilà. Alors, oui.
Les charrettes illustrent encore aujourd'hui des positions politiques divergentes, comme on peut l'observer à Château-Renard, où les Blancs, disons les royalistes d'hier, qui de nos jours représentent la partie traditionnaliste de la population, ont choisi de rejoindre Saint-Éloi. Leur charrette qui est bénie est, elle, décorée de buis, d'avoine, et elle sort début juillet. Mais le premier dimanche d'août, les rouges. Les républicains d'autrefois, aujourd'hui, disons l'opposition de gauche, organisent depuis 1908 le défilé de la Madeleine. Alors la charrette est attelée à une cinquantaine de chevaux. Elle est décorée de glaïeuls rouges et des plus beaux fruits et légumes du terroir. Et ces chevaux et cette charrette défilent au son de l'Internationale et de la Marseillaise sous l'égide du buste de Marianne qui s'est substitué à la statue de Madeleine, de la Sainte.
René Moukadel.
Bon, il est évident que la charrette de Saint-Éloi était une charrette blanche. Il avait été marqué, il y avait un café, le lieu de rencontre était le café Henri IV, qui était le café des Blancs. Et donc, bon, il était évident qu'elle était marquée idéologiquement et politiquement. Bon, mais ce marquage-là, disons que maintenant, il se traduirait par une coloration un peu conservatrice. C'est tout. Mais pas par un étiquetage politique précis. Et pas non plus par des exclusives ou un sectarisme. Bon, il y a des gens qui y rentrent, c'est vrai qu'en gros, il y a plutôt une espèce de traditionnalisme, quand même. C'est un village qui fonctionne assez bien, où il y a une municipalité qui, là aussi, a une coloration, qui est plutôt une coloration traditionnelle, de droite, disons, mais sans étiquette, sans accrochage au grand parti. C'est plutôt bon, des gens qui sont, je sais pas comment ils sont de droite, mais de droite, ça me gêne un peu même de le dire. Mais c'est vrai que les bagarres sont apaisées. Mais je crois que de même que se sont apaisées les bagarres entre villages, vous parliez de bagarres donc politiques, mais il y a eu entre Mayenne et Graveson, dans le village voisin de 3 km, bon, il y a eu toute une animosité qui existait comme partout. Et qui se traduisait, il y a des textes au 19e siècle, par exemple, par des violents affrontements au moment des charrettes. À l'époque où les charrettes se faisaient le même jour, qui était le 24 juin ou le 25 juin, et où la charrette de Graveson venait rendre visite à la charrette de Mayenne, et inversement, et lorsque les deux charrettes se rencontraient, ça donnait lieu à des affrontements.
Patriotisme municipal.
Voilà, exactement, le patriotisme municipal un peu exacerbé.
Les courses de charrettes ont parfois été l'occasion de violents affrontements politiques. On en est parfois venu aux mains.
Oui, parce qu'effectivement, c'était. Il y a des villages comme je crois que c'est Rognonas, où les deux courses se faisaient en même temps. Donc il y avait une rivalité entre les deux, entre les rouges et les blancs, une rivalité qui se traduisait par le souci d'avoir les plus belles charrettes, d'avoir les plus longs convois de mulets, les mieux harnachés, les mieux présentés, et puis une rivalité sur le plan, disons, sportif, c'est-à-dire la course, parce que l'essentiel, c'est quand même cette course à travers la ville. Et puis là-dessus, bien sûr... se greffaient, encore une fois, les rivalités politiques, c'est-à-dire que c'était comme un peu un match de football, quoi.
Aujourd'hui, ces rivalités politiques vous semblent-elles apaisées ou est-ce qu'elles...
Non, elles sont apaisées, mais elles sont sous-jacentes, c'est-à-dire elles existent toujours. En Provence, surtout cette Provence mistralienne, il y a toujours des rouges et des blancs, il y a toujours les charrettes de la Saint-Éloi et les charrettes de la Madeleine. Et bien souvent même, les charrettes de la Saint-Éloi, la charrette des blancs, c'est-à-dire des royalistes, enfin des ex-royalistes, bien sûr, concerne enfin les fleurs, enfin les charrettes sont ornées de fleurs, et celles des rouges, des républicains, sont ornées de légumes. Là aussi, il y a une espèce de symbolique, la fleur c'est le luxe, c'est la richesse, le légume c'est pas la pauvreté, mais c'est la vie quotidienne, banale. Et...
C'est le fruit d'une activité professionnelle, voilà. Oui. Les oppositions politiques que l'on observe dans la course des charrettes datent à peu près de la Révolution.
Non. Vous savez, les charrettes, il existait des charrettes avant la Révolution. On a des textes précis. La première charrette la première date qui est donnée pour la course d'une charrette, c'est l'année 1766 à Fontvieille. Ça a dû se faire, ça se faisait certainement ailleurs, parce qu'on a beaucoup de témoignages ultérieurs disant que avant la Révolution, la charrette courait, la charrette sortait. Mais toujours, la date n'est pas précisée, il n'y a que Fontvieille. Mais je crois que ça situe à peu près ça, c'est 1750, si vous voulez. Hein. Alors là, bien entendu, c'était béni, c'est parce que c'était dans la normalité des choses à cette époque-là. Il y a eu la Révolution.
À l'époque, c'était plutôt des différences socio-professionnelles qui...
Vous savez, c'était l'état d'esprit qu'il y avait dans des pays comme le nôtre, où il y a eu beaucoup de paroles. Nous sommes une terre de paroles ici. Voilà. Parce que la situation des gens, il n'y avait pas... Il n'y a jamais eu de serf dans la province, ce qu'on appelait le servage, ça n'a jamais existé. Il y a eu des gens riches et des gens pauvres, mais les gens tous ne demandaient qu'une chose, avoir la santé. À partir du moment où on avait la santé, on travaillait dur, on gagnait peu d'argent, mais ça allait. Par conséquent, il n'y a pas eu de considération sociologique trop prononcée, trop avancée. C'était pas là-dessus que les différences sont portées à aucun moment. C'était plutôt sur l'opinion. Mais avant la Révolution, vous savez... Il n'y avait pas de grandes opinions divergentes.
Aujourd'hui, les rivalités politiques sont-elles encore vivaces ou se sont-elles apaisées?
C'est comme partout. Ça, c'est un peu... elle s'affirme, elle se manifeste au moment où il y a des élections, comme partout. Mais ça n'est plus une occasion de séparation absolue. Il y avait une coupure entre les couches. Il y avait les rouges, il y avait les blancs. Mais ça, c'est après la Restauration, République de 48, de Second Empire, Troisième République, hein, jusqu'à la guerre de 14, qui a mis beaucoup de gens d'accord par force. Hein. Après, il y a eu des manifestations aussi qui se reflétaient ici. C'était le cartel des gauches, c'était le Front Populaire pour un côté, c'était Maurras, c'était d'autres choses pour d'autres. Tout ça, ça s'est manifesté. Mais ça n'avait plus ce caractère un peu tellement aigu que ça avait avant la guerre de 14. Où vraiment, ici, dans tous les villages d'alentour, il y avait le bal des blancs, il y avait le bal des rouges, il y avait la société de secours mutuel des blancs, il y avait celle des rouges, il y avait les cafés rouges et les cafés blancs, et encore à l'intérieur des cafés rouges et des cafés blancs, il y avait les cafés des bourgeois rouges et des prolétaires rouges, des bourgeois blancs et des prolétaires blancs. Ne vous étonnez pas, hein, parce que les gens les plus pauvres, qui n'avaient rien, qui étaient de vrais prolétaires sans le savoir, parce que c'était un mot dont on ne se servait pas, ils pouvaient être aussi bien royalistes et légitimistes. Hein. C'est dire que l'attachement qu'on avait pour une politique, c'était surtout à des symboles. C'était le bonnet phrygien d'un côté, le drapeau tricolore, puis un peu le drapeau rouge. Et de l'autre côté, c'était les fleurs de lys, c'était le drapeau blanc. Voilà. Alors, devant de tels symboles, il y a eu des luttes, qu'on peut dire, très vives, sinon violentes. Et voilà, l'aspect politique, mais très généralisé. Mais maintenant, bon, chacun s'exprime. Mais c'est au moment des élections, il n'y a plus l'histoire de café, il n'y a plus l'histoire de tout ça. Mais avant, c'était comme ça. Et ça a influé, on ne se mariait pas, une fille de famille blanche n'épousait pas un garçon de famille rouge, et le contraire. Hein. Ou alors ça posait des problèmes terribles.
Thank you.
Alors, dans les années 60, ces fêtes à charrettes vont perdre de leur vitalité. Bon, pour des raisons aussi diverses que, je dirais, le manque d'hommes, le manque des chevaux. Ici, il ne faut pas oublier que la mécanisation du secteur agricole intervient pour une grande part. Et c'est alors qu'un courant conservateur va se mettre en place, décidé fermement à sauver cette fête et cette tradition des charrettes religieuses. Alors, en 1970, est fondée cette fédération des sociétés et confréries de Saint-Éloi et de Saint-Roch, Alpi-Durance, qui regroupe une 12 charrettes. C'est ce groupe qui organise le prêt des chevaux et qui coordonne très précisément le calendrier de sortie de ces charrettes, disons de juin à septembre. Cette organisation, cette fédération, n'admet aucune charrette laïque. Elle ne regroupe que des charrettes religieuses bénies. Bon, à l'origine, les charrettes ont toujours été bénies. C'est un rituel qui semble se mettre en place, d'après les sources que nous connaissons, à partir du XVIIIe siècle. C'était alors la célébration de Saint-Éloi par la catégorie, des ménagers, une catégorie qui regroupe les riches agriculteurs de Provence, des propriétaires, en quelque sorte des propriétaires de chevaux et de vastes terrains cultivés. Donc ces charrettes étaient alors exclusivement ornées de branchages verdoyants, uniquement de la verdure. En parallèle à cette catégorie aisée, agricole, il existait un autre groupe d'exploitants moins fortunés, plus attachés à des cultures, spécifiques, telles que la vigne, la culture des légumes, enfin, plus petites. Et de ce fait, bien entendu, attachés à d'autres protections. Par exemple, Saint-Roch regroupait les jardiniers de Saint-Rémy et ceux de Boulbon, alors que ceux de Château-Renard se tournaient vers Sainte-Madeleine. Que les vignerons de Barbantane se plaçaient sous la tutelle de Saint-Marc. Cependant, au XVIIIe siècle, chacune des paroisses de la région possède sa confrérie de Saint-Éloi et sa charrette ramée. Une charrette tirée par de magnifiques chevaux, empanachés, colorés, enfin. C'est au XIXe siècle que les choses commencent à se modifier. On peut voir la Révolution, la Première République vont accentuer la politisation des associations. Et c'est ainsi que ces riches confrères de Saint-Éloi vont devoir partager avec d'autres leurs privilèges concernant ces charrettes festives.
Les courses de charrettes sont organisées par des confréries ou des sociétés, confréries et sociétés qui se sont regroupées depuis 1970 dans une fédération Alpi-Durance.
Ça, c'est les confréries religieuses. C'est les confréries de Saint-Éloi, de Saint-Roch et de Saint-Jean. Mais il y a des associations, des sociétés civiles ou laïques qui font courir aussi. Ce qui prouve que cette tradition de la charrette n'est pas réservée à une seule partie de la population, à une seule opinion, c'est que tout le monde y est attaché, que tout le monde la fait courir, c'est notre expression, faire courir la charrette. Hein. Et que ça... Mais il est vrai que les sociétés, les confréries religieuses de quelques villages des alentours, ici, se sont réunies en une fédération parce qu'elles avaient de grandes difficultés pour faire des attelages, parce que les chevaux diminuaient de plus en plus, de plus en plus. Et que là, il y a une équipe de jeunes hommes qui est absolument remarquable, d'un dévouement extrême, et qui nourrit, qui élève ces bêtes pour le plaisir. Ça coûte, ça n'est pas sans coûter quelque chose. Ce sont des confréries qui sont des fois très vieilles, hein, dans les paroisses, et qui font...
Et qui doivent accepter la bénédiction des charrettes, je crois.
Ah ben oui, parce que ça a été longtemps la guerre. Ici, pendant des années, ça a été ce qui fait que vous avez un pays... Ici, par exemple, la charrette que nous faisons n'est pas bénie. Parce que quand nous avons créé la société actuelle, ce n'est pas une confrérie, c'est une société, nous l'avons créée il y a 40 ans, nous devons marquer l'anniversaire le 15 août, il a fallu faire très attention en ayant gardé le souvenir des manifestations qu'il y a eu avant la guerre de 14. Vous savez qu'ici, en 1913, la confrérie de Saint-Éloi qui faisait courir depuis la Révolution, depuis la Restauration en tout cas, n'a plus pu le faire parce qu'il y a eu des manifestations anticléricales, et pas anti-religieuses, mais anticléricales, contre la bénédiction, et qu'en 1913, il a fallu 3 brigades de gendarmerie pour maintenir l'ordre dans Saint-Denis.
Sociétés ou les confréries de saints sont dirigées par des prieurs.
Des prieurs ou des capitaines, voilà. Ça dépend oui. Le nom, varie d'une région à l'autre.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les charges d'une manière générale qui incombent aux prieurs?
Il est effectivement chef de la confrérie, donc il a un rôle, disons, de maître, comme on peut le dire en maçonnerie ou dans le compagnonnage. S'il est seulement capitaine, c'est une charge moins importante dans la mesure où elle est acquise par l'argent. Dans la mesure où, à la fin de la course, on met aux enchères soit le fagnon, le gaillardet, comme on dit, mais ça change de nom d'une région à l'autre, etc., qu'on met aux enchères et qui est acquis au plus haut prix. Donc là encore, c'est une question d'argent. Il y a une opposition entre ceux qui ont de quoi payer cette fausse charge qu'ils pourront garder pendant un an jusqu'à la prochaine course, etc., à ceux qui n'en ont pas les moyens.
C'est une distinction qui vaut toujours pour aujourd'hui ?
Je crois qu'elle est plus symbolique maintenant. C'est-à-dire que... je ne veux pas dire que ce soit truqué, mais quelque part, il y a une espèce de connivence qui fait qu'on sait que on laissera Monsieur Untel gagner aux enchères, etc., pour l'honorer.
Donc il y a des conditions véritablement de recrutement des.
Oui. Mais comme c'est une charge honorifique qui est très éphémère, quoi, un an. Bon, disons toutes les personnalités de la ville peuvent espérer dans leur vie être capitaine.
Les prieurs, donc, ce sont les deux couples qui chaque année sont responsables de la fête. Et ces deux couples sont recrutés depuis toujours à peu près par choix des anciens prieurs. C'est-à-dire c'est que les prieurs, vous savez, il y a chaque année donc deux prieurs rentrants et deux couples de prieurs rentrants et deux couples de prieurs sortants. Et les prieurs sortants donc vont choisir les nouveaux. Et c'est en général ça se fait sur la base de connaissances, de relations, d'amitié. Il y a parfois des difficultés parce que la fête ça comporte aussi un coût. Et donc, il y a parfois des prieurs qui hésitent à s'engager parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir faire face. Donc ils attendent éventuellement, ils préfèrent attendre 2 ou 3 ans plus tard que leur situation soit un peu plus assise. Mais enfin, dans l'ensemble, il n'y a pas trop de difficultés pour trouver des prieurs. et les conditions sont celles-là. Donc. Bon, il y a des charges qui sont d'animer la fête un peu pendant toute la durée, donc pendant les deux jours, donc de participer à tout ce qui s'y fait. Et la grosse charge financière, c'est la charge de la daube. Alors la daube, c'est le repas qui se passe le samedi soir. Et c'est un repas au cours duquel les prieurs invitent tous leurs amis, leurs parents, leurs connaissances. Donc on se retrouve avec des repas qui comptent environ 300 personnes, avec un menu qui est un menu fixe, qui est un menu traditionnel, qui est donc le bœuf en daube. Et bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui à la fois, enfin, qui est très convivial, qui est très sympathique, très chaleureux, mais qui aussi a un coût. Bon, mais c'est ça, c'est peut-être un petit peu de toilette, mais enfin bon, parce qu'il faut bien faire un peu de toilette à ce jour-là. Et puis c'est aussi les apéritifs qui se multiplient pendant les 5 jours de la fête. Et là, effectivement, c'est un peu lourd. Et sinon, tout au long de l'année, il y a aussi la charge pour les prieurs d'entretenir l'hôtel de Saint-Éloi, donc qui est le saint patron. Et bon, mais entretenir l'hôtel, ça veut dire mettre des fleurs régulièrement. Voilà, donc c'est pas une charge qui est lourde quand même.
Vous le croirez pas. Une année, j'avais fait le repas de Saint-Éloi à Royonnat. On a fini, c'était à peu près 5 heures de nuit. Je suis arrivé ici, on m'attendait pour aller à Fos manger la bouillabaisse. Alors on m'a dit, toi tu viens de faire un repas, tu vas laisser ta voiture, tu vas monter avec nous. Et on a reparti à 5h30 pour France, pour aller manger la bouillabaisse. Il y avait M. Sons, directeur de la Poste d'Avignon, il y avait M. Bode, vice-président d'Arles, et rien qu'avec des gens que vous savez, ça y allait.
Et vous connaissez tous de très longue date alors?
Oh, tous les présidents de Bordeaux, vous pouvez les demander, tous les présidents, je suis connu de partout.
Monsieur Blanchard, c'est un vieux compagnon à vous, ça, des fêtes de Saint-Éloi.
Oui, son père a mis le devant de la charrette de Saint-Éloi pendant au moins 10 ou 12 ans. Lui, si vous le voyez sur une photo qu'on m'a fait voir, le fleuriste là-bas, il avait combien, 14 ans quand il a mis le choix. Et il n'est pas plus haut que ça, là.
14 ans.
Et son père était à côté.
Comme 48 kilos. Et alors là, encore un coup qui marque. Une berthe qui faisait battre 800 kilos, le brochet. Dans le virage, le brochet, le tombe, le m'entraîne par terre, le m'attirait pendant 30 mètres. Tout le monde crie, il est mort, il est sur le cheval. Alors, quand je me tenais au couverton, là. J'étais dessus, j'ai rien vu.
Ah, oui.
Dis, là.
C'est vrai, tout ça. Comment on a fait cette photo lourde? Il y avait Jean-Louis la main, et ton père courait à côté, et mon père, il avait le fouet.
Ah, ouais. Et puis, alors, ton père était au côté derrière mon père, et puis on s'arrête un peu derrière. Moi, j'étais petit, moi. Et à toute force, mon père qui avait mis les bertes pendant des années et années après la guerre, c'est lui, avec M. Pierre Mouret, qui était président à l'époque, qui avait mis la. Qui mettait Cavir. Et les mouniers là. Alors mon père, tout d'abord, s'il voulait que j'ai la passion pour ça. Et dès qu'il avait pris une grosse bête, esprit pour que je puisse faire au Saint-Éloi.
Je vais chercher.
La première année, je suis tombé, il m'entraînait pendant 30 mètres. Mais c'est pas pour ça que je me suis arrêté.
Il manque quelque chose.
Ah ben écoute, je vous dis, devant, il a. Pendant je sais pas combien d'années, je vais mettre le premier, là, arrivé d'Algérie. Là. Monsieur Sylvain me dit, tu ne voudrais pas mettre le premier. Je dis volontiers, mais à l'époque, il n'y avait pas les bêtes d'aujourd'hui. Et une fois, tu te rappelles qu'il y avait cette jument qui a mené, je ne sais pas qui est ça. Qui... Non. Avant, c'était les bêtes. Avant, les bêtes de bonne foi. Tu te rappelles, il y avait deux bêtes du tonnerre, deux juments.
Ouais,
de bonne foi. Il y avait Margot et. Margot est en guette là. Margot est en guette, mais là j'ai mis le devant avec ses bêtes, des bêtes qui devaient faire des grosses bêtes en droit. Des bêtes de 700-800 kg, mais avec une volonté pour l'autre. Des bêtes travaillées à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. Et pendant, je sais pas moi, 7-8 ans, 10 ans, ils ont fait ces deux bêtes. Et ensuite il a vendu ça, comme là, il a cessé l'activité d'exploitation. Là. Nous faisions avec les moyens de bord. Il y avait un maquignon qui nous a amené le jument. Je me souviens, je me souviens plus de son nom là. Et elle avait pouliné il n'y a pas longtemps. On dit les bêtes, pourtant on ne connaissait pas Maya. Et autrefois nous partions de devant la poste en courant pour prendre le premier virage un peu trop là. Et on faisait le tour presque complet de Maya. Et pour pas que la jument s'affole, ils avaient amené son poulet qui avait, je sais pas moi, combien il peut avoir ce poulet, 2 mois. Deux, trois mois. Et ce poulet il était dans un enclos, au moins chez M. Firmin, là où il y avait les arènes encore à l'époque. Au moins 200 mètres, 250 mètres. Là. Mais vous ne savez pas que chaque fois que j'arrivais en courant pour prendre le virage, là, Il fallait que je la tire au moins 10 mètres avant, lui parler, et elle sentait le poulet, elle voulait aller retrouver son poulet. Et une fois qu'elle avait tourné, qu'elle avait fait 20-21 mètres, je ne sais pas si c'est les maisons qu'elle n'avait plus l'odorat, quoi. Et elle a redémarré nature. Hein. Alors, à chaque fois que j'arrivais là, je voyais ce jument, elle commençait 20 mètres avant. Ah, elle est nissée. Elle voulait aller voir son poulet.
Alors, monsieur Simian, pendant les périodes un peu douloureuses, pendant la guerre par exemple en 40, là, les fêtes, ça changeait un peu d'ambiance, c'était, ou alors...
C'était pas les mêmes fêtes qu'on fait maintenant. Oui, c'était marqué.
C'était moins gai, c'était moins...
C'était moins gai, oui.
Mais, c'était une période un peu difficile, oui.
C'est une période très difficile, oui.
Parce que les charrettes couraient quand même à l'époque.
On a toujours couru. Hein. Mais on était moins que maintenant, puis c'était plus difficile.
Parce qu'il y avait, beaucoup de prisonniers, de gens de Mayanais qui étaient prisonniers ou qui étaient...
Il y en a eu de prisonniers à Mayanais, ouais, attention, oui. Moi, je suis été soldat en 40 à Toulouse, dans l'artillerie, le 117e d'artillerie lourde. C'est les Allemands qui m'ont sorti de la caserne. Nous sommes été créés les chantiers de jeunesse.
Et alors, donc, les charrettes, malgré tout, continuent à courir,
Doucement, parce qu'il y avait des anciens qui étaient mordus pour Saint-Éloi, hein, comme je vous dis, mon oncle, comme le Bouchard, Pêcheur, qui n'a pas pu venir. 92 ans, et il nous fait encore un boulot formidable. 92, hein, et il fait encore un boulot, Pierre, je suis été le voir, là. Je l'avais invité à venir. Mais 92 ans, et il prépare les bougies pour ce soir, pour la procession.
La procession,
voilà. Après les gradoupes, je crois que le prieur nous a dit que nous étions 300, plus de 300. Alors il fait les lampions, lui.
Autrefois, quand c'était les paysans qui apportaient le cheval qui était Thomas, il y en avait qui ne voulaient pas qu'on fasse courir. Parce qu'il y a des risques d'accident. Et vous savez que si un cheval se casse la jambe... Nous, ici, nous disons couper. Ici, on se coupe. Quand on se casse le bras, on dit aussi, il s'est coupé le bras. Ce qui peut laisser supposer que, mais non, c'est la simple cassure. Et si un cheval, donc, se coupe la jambe ou se casse la jambe, ça peut entraîner sa suppression totale. Hein,
parce qu'à c'était un bien précieux à l'époque, le cheval.
C'était un bien très précieux. C'était dans un mas, la place qu'occupait le cheval ou le mulet... Le soin dont il était entouré, l'affection qu'on lui portait, il avait son nom, il avait, c'était quelque chose. Et les pleurs qu'on versait quand un cheval ou un mulet mourait, ou quand, vous êtes jeune, vous n'avez pas souvenance de ça. Mais avant la guerre, chaque année, on recensait les chevaux et les mulets dans chaque mairie de France et de Navarre, comme les pigeons voyageurs et comme les hommes. Il y avait un passage au conseil des chevaux, ça se passait là sur la place qui est à côté, et les chevaux qui étaient là étaient examinés par une commission de l'armée, de vétérinaires, tout ça, et ils étaient inscrits avec leur nom, et quand en 1939, au moment de la guerre, quand on a mobilisé les chevaux, je vous assure qu'il y a eu des scènes dans les masses, on a pleuré autant le départ du cheval que le départ du fils. Hein.
Parce que les chevaux ont été réquisitionnés.
Ils ont été réquisitionnés, en 1939, ça ne marchait qu'avec ça. Si vous aviez vu passer là tous les chevaux qu'on avait mobilisés dans les... Je peux ça mobiliser car c'était une mobilisation. Et qu'on menait à Tarascon pour les embarquer à la gare et les faire filer sur le front, c'était quelque chose d'émouvant. On peut dire que c'était émouvant. Bon, bah, c'était des bêtes, mais enfin, c'est pas une raison. Gars.
C'est quoi votre meilleur souvenir?
Mon meilleur souvenir d'affaire de Saint-Éloi?
Oui, le déjeuner.
L'année que tu es assis seul devant la mairie.
Ah ouais, raconte-nous ça. L'année que la charrette s'est tankée devant la mairie.
Il y a un coup de tête, il reste pour ça devant la mairie.
Ah bon? Oui. Deux fois devant la mairie.
La carrette.
Que le cheval, en arrivant devant la croix, il y a eu un coup de trait. Il est tellement pieux, il s'est mis à genoux pour faire sa prière. Et une fois un peu plus loin, dans un virage, il y a eu un coup de trait et je suis rentré dedans le platane. Tout cassé, le cheval a été déshabillé, désharnaché complètement.
Les traits, si vous voulez, donc c'est les cordes qui tiennent les chevaux les uns derrière les autres.
Les bêtes
derrière l'autre. Et normalement, il faut que les traits soient tendus pendant tout le temps de la course. Bon, parfois, il y a des petits ralentissements, donc les traits se détendent, et quand ça repart, ça fait un coup de trait. Donc là, parfois, le trait casse. C'est arrivé donc une fois où les 12 ou 15 bêtes de devant ont continué, Et la charrette, elle s'est arrêtée parce qu'il y a...
D'ailleurs, ils étaient arrêtés. Hein. Ils avaient ralenti. Alors, comme je dis tout le temps, celui, c'était mon neveu qui mettait le premier. Là. Il devait attention de bien courir au moins 50-60 mètres après le virage pour dire que la charrette est tournée. Mais lui, quand il a eu tourné au bout de 20 mètres, il s'est arrêté. Mais il a dû dire, oh, l'oncle, il t'a dit d'aller à 50-60 mètres. Il a redémarré, mais lui, quand il s'est arrêté, moi, au moment où il redémarrait, moi, je m'arrêtais. Le coup qu'il a redémarré, ils m'ont couché le cheval. Ils m'ont couché, il est parti dans le platane.
Les membres de la confrérie aujourd'hui ne sont plus pratiquement des agriculteurs, ce qui était le cas autrefois.
Oui, grand pourcentage, ouais.
Il y a quand même beaucoup.
Il y a encore pas mal
de... Oui, il y a pas mal.
Alors regardez, on a des professeurs, on a des mécanos, on a de tout. Hein.
Oui, là, c'est vrai qu'avant, c'était une corporation qui était que paysanne.
Voilà, oui.
Oui, c'était un village à 90% agricole. Quoi. Tandis qu'aujourd'hui, ben, s'il y avait... Il y a 20 ans, combien qu'il y avait à Mayenne, au moins
150 exploitants.
150.
Et maintenant, je crois qu'on arrive à peine à une cinquantaine. Déjà,
oh, oui. Mais tu crois qu'il y en a 50 non
environ 150.
Tu ne me comptes pas, moi, j'ai un jardin. Oui, il y a 29 ans que je suis président.
Oui.
J'y étais avant, juste que je n'ai pas voulu être président parce que j'avais un oncle qui avait 80 ans et il était mordu pour Saint-Éloi, cher. Alors quand on m'a proposé d'être président, je lui ai dit comme ça, mais j'ai un oncle là-bas, il serait content s'il était président. Alors on va le nommer président. Et moi, je ferai le travail. Et lui, il avait 80 ans. Et lui, il aura l'honneur d'être président. Quand je suis été lui dire, il m'a attrapé par le cou, il m'a embrassé, il m'a dit, j'ai le plus beau cadeau que tu pouvais me faire. Et ça m'a resté dans la mémoire. Et lui a été président, et moi je faisais les courses.
Vous faisiez son travail.
Je faisais le travail.
Et ça, finalement, ça a fini par vous plaire, alors ?
Ça me plaît. Oh, mais ça m'a toujours... Et ça m'a plu quand je suis né. Mon père était le fervent, il faisait claquer le fouet. Mon grand-père a été, avant la guerre de 14, vice-président pendant 20 ans. Mon père a été vice-président entre les deux guerres, entre 39 et 14. Il a été 28 ans vice-président. Et puis moi, j'ai pris après. Alors ça fait vieux quand même. Hein. C'est vrai, et ce que je vous dis, c'est vrai. Vous pouvez... Et j'ai fait des Saint-Éloi. Dès que j'ai eu le permis de conduire, j'ai mené mon père, que lui, tous les dimanches, me disait, il y a Saint-Éloi à Boulbon, il y a Mont-le-Gers. J'ai eu mené mon père dans des Saint-Éloi, que quand nous sommes arrivés à Boulbon, là-bas, il n'y avait personne. J'ai dit, mais pas. Mon père, tu t'es pas trompé, c'est bien la date aujourd'hui que c'est Saint-Éloi, il n'y avait personne. Il me dit, oui, mais t'en fais pas mal, tu vas voir. Alors, j'ai arrêté la voiture, il a sorti, il a pris son fouet, et clac, 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 clac. Oui, les gens du café sont sortis, et ça a été Saint-Éloi. On ne voyait pas.
Ils répondaient au coup de fouet, en quelque sorte.
Ils ont répondu au coup de fouet, c'est vrai, oui, c'est vrai.
Ça claque encore aujourd'hui, les fouets, ici, pendant la course.
On est ça, oui, il y en a quelques-uns. Moi, j'avais commencé, mais je m'étais coupé le bras quand j'étais jeune, et pour me mettre en place, c'était pas là, comme maintenant.
Vous mais... coupez, vous, ça veut dire que vous l'étiez cassé, hein.
J'étais cassé. Mais là, j'aime pas tout. Il y a quand même 29 ans que je suis président. Alors ça commence à compter.
En 1908, l'accident n'a pas eu lieu, il est aujourd'hui considéré comme un grand miracle. C'est à Rognonas, en 1908. Il y avait un convoi qui faisait 400 mètres de long, ce qui est absolument fantastique, avec une centaine de bêtes. Mais il y en avait que 50 parce qu'elles étaient par couple.
Couplées.
Mais ça fait quand même un attelage absolument extraordinaire. Et la charrette ramée est passée sur la voie de chemin de fer au moment où arrivait une locomotive. Et le convoi de la charrette ne pouvait ni stopper, ni avancer, ni reculer. Et miracle, au milieu de la charrette ramée, c'est-à-dire de l'attelage, sur la voie même, les harnais des deux chevaux du milieu se sont brisés, miraculeusement, dit la légende, etc. Et la locomotive a pu passer entre les deux tronçons de la charrette ramée.
Ah oui, c'est ça. Alors, Mistral, il était chez lui, là. Et ma mère habitait un peu en derrière, là. Il n'était pas loin, il était voisin. Alors, quand il recevait une haute personnalité, il allait voir ma grand-mère et lui disait, ce Zarino, habillé à l'âge Marie. Parce qu'il y a des mondes à recevoir et il faut que me présente le bouclier. Alors ma mère s'habillait en provençal, il allait chez lui. Il a présenté le bouclier au duc de Guise, au roi des Belges et au Kaiser. Ma mère, avec Madeleine Chamois et Jeanne Fortier. Mais surtout tout rappelé. Et avec le duc de Guise, bon, il y a offert un petit goûter l'après-midi. Voyez. Et, alors, il est allé chercher du vin blanc que lui faisait au mas de cavalier, là, que M. Mistral faisait un vin blanc avec des clairettes. Et quand il a débouché la bouteille, le bouchon est parti, c'était le vin blanc qui moussait, et quand il a vidé, bon, il y a eu un verre. Il a fallu qu'il en sorte trois pour faire voir ce qu'ils étaient. Et c'est ma mère qui nous l'a dit.
C'était à peu près en quelle année, ça?
Ma mère n'était pas mariée, ça, c'était assez vieux quand même. Et ils n'étaient pas mariés.
Il était dans une masse attenant, là. Mon arrière-grand-père et mon grand-père en masse de Maurice. Et ma grand-mère, souvent, elle s'habillait. Ma grand-mère maternelle. Il y avait quelque chose, comme dit M. Chimien. Elle s'appelait Marie Allée. Alors, comme souvent, elle venait. Elle lui faisait plaisir, quoi. Alors, elle lui dit, un jour, je t'écrirai quelques vers sur toi. Et un jour il arrive, il dit voilà, avec une feuille, il dit voilà ce que j'ai écrit sur toi. Alors comme elle s'appelait Marie Allée, il y avait écrit Grand Marie Allée, comme le café, un dégoût de l'air par la réfresquère, un taillon de bio, y'a failli papo, une costellette, y'a failli guilinguette, un trop défilé, c'est l'hypaïlisé. Pour le traduire. Hein. Alors, voici ce qu'elle avait dit à ma grand-mère, hein, qui s'appelait Marie Allée. Mamie Marie Allée, qui aime le café, une goutte de lait pour la rafraîchir. Un morceau de bœuf, lui ferait pas peur. C'est en Provençal, un taillon de bio, il faillait pas peau. Une côtelette, lui ferait linguette, lui ferait envie, quoi. Un morceau de filet, elle se lècherait les doigts. C'est l'hypaïlisé.
Réjouissance se déroule sur deux jours, hein, pour l'essentiel, le samedi et le dimanche. Donc la première partie de la matinée du samedi est consacrée à la coupe des branches d'ormeau par les jeunes gens de l'association de la confrérie. Des rameaux qui seront destinés à la décoration de la charrette. Ce choix du végétal est lié à son abondance sur le terroir communal. Parce qu'il faut dire qu'évidemment, il est différent selon les localités. C'est ainsi qu'à Saint-Rémy, on emploiera des branches de peuplier. À Boulbon, ce sera du saule. À Saint-Étienne-du-Grès, des tiges de tamari. Ou encore des brins de buis, comme à Château-Renard. À l'issue de cette collecte de feuillage qui a lieu assez tôt dans la matinée, on organise ce qu'ils appellent le déjeuner des branches, et qui est offert par l'association. Pendant ce temps, on s'active énormément au bourg. Il faut préparer évidemment le passage de la course des chevaux. Et il y a comme ça quelques petits endroits dangereux, à des lieux un peu réputés, difficiles pour les pieds des chevaux, des virages à angle droit. Et un camion vient donc de décharger sa cargaison de sable de façon à adoucir un petit peu ces passages difficiles. Puis, on conduira la charrette sur un petit chemin assez ombragé, un petit peu à l'extérieur de la localité. Et enfin, midi sonne au clocher de l'église et deux pétards seront tirés qui donneront le signe du commencement des festivités. Immédiatement, on sort la statue de Saint-Éloi sur le parvis de l'église, alors que fifres et tambours se mettent à escorter avec joyeusement, dirons-nous, les 10 membres du bureau de l'association, qui, assis dans une petite charrette, se dirigent vers le domicile d'un des deux prieurs pour un apéritif auquel toute la population est conviée. Enfin, un repas est proposé par l'association aux chartiers. Et on appelle chartier en quelque sorte les propriétaires des chevaux. Donc autrefois, c'était les ménagers, les agriculteurs. Maintenant, évidemment, il y en a beaucoup moins. À Mayanne, on peut dire qu'il y en a 9. On en a noté 9. Les 11 autres proviennent des bourgs différents. Donc, c'est un petit peu l'originalité de cette fédération et le bien de cette association, c'est de pouvoir gérer en quelque sorte le prêt de ces chevaux et de ces hommes. Aux localités qui n'en ont pas assez.
L'honneur de faire la roue, c'est un honneur de faire la roue.
Ah oui, oui. D'abord, c'est M. Blanchard qui m'a donné là. Vous voyez, c'est... Voilà, bon, ben là, bon. Chacun... Pour moi, ça me fait plaisir de travailler pendant 2 heures à faire ça, parce que c'est... M. Vubian, il fait l'intérieur de la charrette, M. Richard, pareil. Chacun en a notre... Et ça va de génération en génération. J'espère que mon fils me remplacera pour courir, puis après pour faire la charrette. Vous voyez, c'est...
Vous allez lui apprendre à garder la roue?
Disons que, comme quelqu'un qui joue au ballon, bon, il donne pas un ballon de rugby à ses enfants pour y apprendre. On a des traditions, on a des
Mes amis, parce que c'est beaucoup plus bien.
Vous voyez, c'est...
Mes amis,
là. C'est mon cousin. Bon, Riri, c'est mon cousin. Et, disons que...
La maison de là.
Ça se passe un peu en famille aussi. Vous voyez,
Il est très souple, là, l'ormeau.
On a vu, on n'a pas mouillé et il empête beaucoup.
Là, il y a un sécateur, Daniel.
Si on le mouille, il est beaucoup plus souple, vous comprenez.
C'est des traditions qui se passent de génération en génération.
Voilà. Des rogers, mais très longs et fins. Alors là, c'est beaucoup plus facile à faire. Alors maintenant, vu ce qu'on vous expliquait ce matin de la maladie qu'ils ont eue, de ce virus, on a des difficultés à trouver des ormeaux et on prend un peu ce qu'on a. On ne garnit pas bien comme on veut. Hein. Vous voyez, un roger comme ça, c'est très joli. C'est très long, c'est Frédéric.
Aux alentours de 16 heures, les hommes de la confrérie procèdent à l'opération, je dirais, la plus délicate dans le déroulement du rite, qui concerne la décoration de cette charrette. C'est un moment important. C'est aussi une occasion de confrontation, de savoir-faire qui...
Un jour un peu spécial.
Bon, dans l'art de l'assemblage des branches, où la technique des jeunes, bien sûr, se mesure à celle des plus anciens, dans l'intention d'offrir au public une œuvre aussi équilibrée et efficace, une composition dynamique et vraiment esthétique, capable de saisir le spectateur, d'un réel sentiment d'appréhension et d'admiration. Je crois que tous ceux qui ont vécu ce moment le ressentent. Donc cette organisation de la charrette, précisons-le, est un travail mené exclusivement par les hommes. Aucune femme n'est autorisée à la toucher. Bon, c'est un petit peu l'affirmation de la virilité locale, en quelque sorte. Alors, il est environ 19h30 lorsqu'une vingtaine de chevaux somptueusement parés pénètrent dans ce chemin, tous les uns derrière les autres, qui vont s'atteler, on dit en flèche, parce que donc bien mis les uns derrière les autres, de façon à pouvoir entraîner le char verdoyant. De là, ils progressent vers le bourg pour accomplir leur premier parcours de course qui consiste à effectuer deux tours du village au pas et une montée au galop. Alors course, galop, tangage périlleux du chariot, virage serré, la vitesse des chevaux lancés à toute allure par les conducteurs est véritablement impressionnante. L'émotion étant, disons, encore plus forte dans les passages étroits. La grande hantise ici, bien entendu, c'est de voir tomber la charrette. Je dirais un accident qu'il n'est pas courant de constater, mais qui arrive parfois, malgré tout. Car bien sûr, dit-on, ils vont beaucoup trop vite. La raison, c'est que, bon, autrefois, les bêtes étaient fatiguées par le travail au champ, et bien entendu qu'elles couraient naturellement moins fort. Les chevaux aujourd'hui ne font rien pendant l'année. Et ne sont utilisés que pour ce type de manifestation. Donc, on peut comprendre qu'ils se laissent évidemment un peu plus facilement aller. Alors, dans les simples défilés où les chevaux ne courent pas, vont au pas, les chevaux sont environ une cinquantaine. Alors que pour ces courses, bon, on en note environ une vingtaine. Tous ces chevaux ont été sélectionnés d'après leur robustesse, leur élégance et leur docilité. Donc il faut dire que les chevaux ont été au préalable brossés très minutieusement, leurs sabots passés à la graisse ont une brillance irréprochable, les harnachements sont magnifiques de couleurs. Ces harnachements se composent d'une croupière en cuir et en tissu, d'une peau de mouton qui est teinte, d'une couverture de laine et d'une paire de traits, les traits sont les cordes qui relient donc les chevaux entre eux, d'un collier de cheval de tête en cuir et qui est orné de clochettes, de miroirs et de pompons multicolores. Alors on dit que ces chevaux sont harnachés à la sarrasine, c'est le terme qui est consacré.
Alors le harnachement, ça c'est défini par, ou c'est exprimé par un mot commode. On dit que ce sont les harnachements à la sarrasine. Voilà. Alors, la question est posée. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire, sinon que c'est un lointain rappel d'équipage de chevaux inspiré par les Arabes, par les Maures ou par les Sarrasins, comme on les appelait ici. Ah, vous savez que... je vous montrerai des photos, ça évidemment, c'est pas le faire, mais je vous montrerai pour que vous compreniez un peu ce que c'est. Le dessin du harnachement, la présentation, ce sont des motifs, ce sont des dessins, ce sont des broderies, mais ce sont des motifs où il n'y a jamais une représentation humaine ou animale, comme le dit le Coran. Voilà. Alors c'est pour ça que ça accuse l'origine prétendue sarrasine. Mais elle n'est pas impossible, parce qu'il faut que... Le cheval, c'est fait pour quoi ? C'est fait pour bouger. C'est fait pour transporter. Il y a toujours eu des gens, à toutes les époques, qui ont voyagé avec des chevaux, qui ont fait du pays, et qui ont traversé les frontières. Et quand on traversait les frontières espagnoles, si vous savez, et si vous vous souvenez qu'en Espagne, pendant 700 ans, les morts, ce qu'on appelait les morts, ont été les maîtres de l'Espagne, que jusqu'au XVe siècle, il y avait des émirats et des califats en Espagne, il n'y a pas de raison du tout pour que les attelages des Espagnols, du reste on les appelle des fois attelages andalous, attelage castillan, parce que les Espagnols, comme tous les gens qui ont eu des chevaux, ont toujours cherché à les harnacher avec un peu de brio, un peu de... voilà, et ça n'est pas seulement valable en Europe, il y a toute l'Afrique du Nord, il y a tous les pays du Moyen-Orient et de tout ça. Vous avez la Sicile avec Caretino Siciliano, où il y avait des harnais dessinés, brodés, mais toujours suivant cette mode, pas de représentation humaine ni animale. Alors, et en plus de ça, au Moyen-Âge, on a des textes qui concernent le roi René, qui a été un comte de Provence, celui qui avait construit le château de Tarascon, et c'était ses comptes, ses comptes de trésorerie, et il y a plusieurs fois le mot sarrasin ou sarrasine qui revient, et ça indique toujours quelque chose qui est ou d'origine, ou de type, ou d'imagination un peu orientale. On dit toujours sarrasin. Le mot de sarrasine ou de sarrasin, en matière de charrette, n'est cité dans aucun texte par personne, pas même par Mistral. C'est le peuple qui l'a gardé. C'est curieux. Le peuple a gardé ce vocable. Alors, harnachement à la sarrasine, voilà, c'est ça.
Alors souvent, ces harnachements sont assortis de grelots, de miroirs, et je crois que la légende rapporte que ça a une valeur religieuse pour faire fuir les mauvais esprits.
C'est pas religieux. Ça, justement, c'est l'origine prétendue maghrébine ou arabe de ces grelots et de ces verres qui sont là, qui, chez les peuplades, je dirais pas primitives, mais des peuplades antiques, de vieilles tribus, de vieux peuples, une tradition qui faisait que le tintement des grelots et le miroitement des petites glaces sont susceptibles d'écarter le mauvais esprit ou les mauvaises choses, voilà. Mais vous savez, il n'y a pas un paysan du siècle dernier ni du siècle d'avant qui a cru à toutes ces choses-là. Ça, c'est les ethnographes qui le rapportent parce que c'est certainement la vérité. Ben, ça n'est pas d'une application constante, mais c'est vrai, ça passe pour ça. Et en effet, c'est plein de grelots et c'est plein de petits miroirs qui sont assemblés autour de sur la bride, sur tous les éléments divers qui constituent l'équipement de la charrette, le harnachement du cheval à la sarrasine. Le cheval, c'était quelque chose, c'était un animal roi dans l'agriculture, c'était le maître, c'était la plus noble conquête de l'homme, c'était aussi la plus belle possession du paysan. C'était pas tous les paysans qui possédaient un cheval, parce que ça coûtait cher, parce que c'était relativement fragile d'entretien et de ça, et que ici, pendant longtemps, on a beaucoup plus employé le mulet. Le cheval n'a été... Le cheval, alors je parle pas du cheval Camargue, qui n'a rien à voir avec la culture, mais les percherons, les bretons, enfin tous les grands chevaux, ne sont arrivés ici, en principe, qu'au moment où le chemin de fer s'est développé et où on a pu les amener en wagon à partir des lieux d'élevage. Voilà. Alors, le cheval, depuis... mettons en gros, il y en avait avant, parce que quand même, c'est pas le chemin de fer qui nous a tout apporté, mais ça a facilité les choses. C'est en gros depuis 1850, et il y avait beaucoup plus de mulets que de chevaux à ce moment-là, parce que le mulet, c'est très fort, c'est aussi fort que le cheval pour travailler, c'est un peu têtu, le cheval est plus facile, mais le mulet est plus facile à nourrir, parce que il n'a pas besoin d'un fourrage de premier choix. Il mange. Et puis il y avait aussi beaucoup d'ânes. Beaucoup, parce que la Provence était un pays sec, un pays relativement pauvre, avant que l'irrigation ne soit intervenue, avant qu'on nous ait amené de l'eau. Et l'âne ne peut pas se livrer évidemment à certains travaux ou faire certains charrois, mais pour les travaux de la, pour tracer des sillons, pour faire certains travaux à l'usage du paysan, il le faisait très bien. Et l'âne, ça mange le chardon qui vient dans les fossés. Hein. Alors c'était très appréciable autrefois. Ça.
Aujourd'hui, le cheval, c'est une vedette dans la course des charrettes, non ? C'est une des vedettes de la course
des charrettes. C'est une des vedettes parce que s'il n'y avait pas de charrettes ici encore, il y aurait peut-être plus de chevaux de trait. Hein. Chevaux d'équitation, des chevaux de manège, ça, il y en a, c'est le tourisme qui l'a introduit. Mais le beau cheval, et c'est ce qu'il faut souligner et saluer, c'est que si les charrettes sont encore possibles aujourd'hui, il y en a une en ce moment tous les dimanches, depuis le mois de juin jusqu'au mois de septembre, eh bien c'est parce qu'il y a de jeunes hommes, hein, de jeunes agriculteurs, qui ont gardé l'amour du cheval, et qui achètent et élèvent des chevaux, simplement pour les atteler 3 fois par an, ou 10 fois par an si vous voulez, à une charrette. Par conséquent, c'est un animal auquel les gens sont très attachés parce que ce sont des bêtes superbes. Si vous en voyez une, vous vous rendez compte. Et on les voit avec une grande sympathie, et d'autant plus de sympathie qu'ils sont de plus en plus rares. Si ce n'était pas les charrettes, je crois qu'on n'en aurait plus.
De la matinée du dimanche est consacrée à l'activité religieuse. Alors, la messe en provençal, la bénédiction des chevaux et de la charrette, et ainsi que des tortillades. Alors, les tortillades, ce sont des gâteaux cérémoniels en forme de couronne qui sont parfumés à l'anis et que l'on fixe au collier des chevaux ainsi qu'au... Dans la procession autour du village, autour des mains et des poignets de Saint-Éloi. Et cette matinée donc s'achève avec la traditionnelle procession donc autour du bourg où on chante le cantique à Saint-Aloy par les femmes. Quant au costume du charretier, il est un mayan composé d'une tailleule jaune. La tailleule, c'est une large ceinture en coton qui est jaune, la couleur emblématique des confréries religieuses, alors que pour les charrettes laïques, elles sont rouges. Donc à Mayanne, un t-shirt blanc orné sur la poitrine d'un attelage de Saint-Éloi, d'un jean et d'une paire de tennis apte à courir.
Quelques-unes de questions. Vous assistez souvent aux courses de charrettes à Mayanne?
Oui. Ça fait. Ma femme est de Mayanne et on habite sur le Thor et elle vient. On vient pratiquement toutes les années pour la charrette. C'est très beau, hein. Vraiment. Il y a beaucoup de monde.
Quand j'étais jeune, je m'habillais en arlésienne et voilà. Ça me fait beaucoup.
C'était une belle course aujourd'hui?
Très bien, très bien.
Mais ils ont tourné plus vite au premier tour. Comme au premier tour, elle a chassé, au second tour, ils ont passé moins vite quand même. Hein.
peu imprudent.
Ouais, les gens qui se mettent là-bas, si la charrette vide, ils se font coincer dans le mur. Hein. Parce que ça peut arriver hein, que le fer vire. Hein.
Attendez, Gaston, viens. Toi, ah. Voilà.
Vous assistez régulièrement aux courses de charrette.
Ça fait quelques années que nous venons voir cette matinée là. Et chaque année, je trouve, comme cette année par exemple, c'est encore peut-être encore mieux réussi que l'année dernière.
C'est l'ensemble.
Les chevaux me semblent vont encore un peu plus vite. Et puis je ne sais pas s'il n'y en a pas même deux de plus que l'année dernière. Mais c'est un spectacle véritablement typique de cette région des Bouches-du-Rhône, de la région nord des Bouches-du-Rhône. Les chevaux qui sont magnifiques, des chevaux qui sont superbes, bien entraînés, et puis les gars qui courent à côté, qui donnent du souffle aussi, il faut dire ce que c'est.
C'est un des plus beaux attelages à Mayanne ici, là, de toute cette période de course.
Je ne dirais pas que c'est le plus beau, mais c'est un des plus beaux, parce que je crois qu'on peut dire de partout qu'ils sont tous les plus beaux.
Oui, parce que ce sont les mêmes chevaux qui courent partout.
Ah oui, se prêtent les chevaux, les mêmes chevaux se retrouvent. Et bon, mais il y a le cheval qui est embranché dans les manches, dans les bras de la charrette, qui lui, il doit être un spécialiste, hein, rien qu'à le voir faire, parce qu'il faut la tenir. Et on m'a dit tout à l'heure que la charrette était lestée dessous, vous savez, qu'il y avait du poids sous les cieux, parce que le centre de gravité dans le virage, là, il a tendance hein, à partir là-bas de l'autre côté. Hein.
La charrette se déporte,
et vous avez vu, elle fait ça, hein. Même qu'il y ait le sable et tout. Et les chevaux au cours sont bien ferrés, heureusement, parce que et que c'est l'été, parce que le goudron est quand même un peu ramolli, ça va mieux autrement à l'allure où ils vont. Je me demande ce qui se passerait. Hein. Enfin, beau spectacle, des gens qui ont la foi dans ce qu'ils font, qui aiment leur village et qui essaient de perpétuer cette tradition. C'est superbe, il faut qu'ils continuent. Ça, je veux le dire, et il faut qu'ils en aient. Hein. Et il faut continuer.
Moi j'étais charretier depuis, j'ai encore couru l'année dernière, mais je commence à me faire un peu, pas vieux, mais trop vieux pour courir en tout cas. Et bah, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Enfin, c'est important à la fois parce que bon, bah, ça fait partie de la tradition, et puis aussi parce qu'il y a une certaine émotion au moment de la course, parce que je crois un peu parce qu'il y a du risque, et bon, on en est un peu conscient, et un peu aussi parce que bah, on continue, on maintient une tradition, et puis on maintient une espèce de, je sais pas, de ligne avec le passé. Quoi, et c'est intéressant de ce point de vue-là. Et je crois surtout que c'est une fête qui est... J'allais dire à Mayanne, mais je crois pas qu'à Mayanne, hein, partout dans le coin, hein, ici, là, entre Alpi et Durance. C'est une fête qui n'est pas du tout touriste, qui n'est pas du tout folklorique. Et c'est une fête où les gens font la fête parce qu'ils ont envie de la faire, ils la font pour eux. Bon, s'il y a du monde qui vient et s'il y a des touristes, tant mieux, pourquoi pas. Mais je crois qu'il n'y a pas du tout cette espèce de tape à l'œil qu'on rencontre parfois dans les manifestations de mauvais folklore provençal, disons. Et il y a des gens qui vivent une fête et puis qui la vivent... je vous dirais que, je sais pas, s'il pleut, ça arrive rarement, mais ça arrive parfois qu'il pleuve pour Saint-Éloi. Ben, je veux dire, s'il n'y a personne pour nous regarder ou s'il n'y a pas grand monde, je crois qu'on court avec autant de plaisir et de foi. Genre.
Alors voilà, vous voyez, vous avez des enfants qui sont juchés. Bon, voilà aussi, ça c'est une charrette.
Juchés sur les chevaux.
C'est une charrette à Saint-Rémy en 1930, ça, et les petits, on les met là-dessus. Et c'est le grand plaisir des enfants que d'être là-dessus. Hein. C'est la fierté du papa ou du grand-père d'avoir le fils ou le petit-fils là-dessus. Bon, ça, maintenant et depuis longtemps, ça n'a pas d'autre signification ou d'autre raison que de faire plaisir aux petits. Mais il y a une théorie selon laquelle... Alors parce qu'il y a la théorie de tous les rites de passage, les rites de protection, tout ça, c'est on en ferait un large développement. Mais... justement, en vertu de ces considérations anciennes, il paraît que le fait de mettre un enfant là-dessus, alors que le trot, le pas du cheval, c'est une marque de fertilité agraire, le piétinement du cheval, ça permet de faciliter la terre, le travail de la terre, la production,
la masse,
ça la pétrit. Et que, par la même raison, les enfants là-dessus sont en quelque sorte... virilisés, solidifiés, c'est bon pour leur colonne vertébrale. Vous voyez, jusqu'où ça allait.
Il y a une communication.
Il y avait quelque chose de tout à fait particulier autour de la charrette, qu'évidemment, maintenant, bon, le populo ne le prend pas à argent comptant, mais dont il ne faut pas se moquer, parce qu'à une époque, on a dû y croire, ou on a dû...
Par l'intercession de saint Éloi, la bénédiction de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur cet instrument de labeur. Amen.
La charrette ramée de la Saint-Éloi, Mayanne, 23-26 juillet 1994. Une émission de Patrice Frédieux. Avec la participation de Marie-France Gueusquin, Jean-Paul Kléber, Marcel Bonnet, René Moucadel et les membres de la confrérie de Saint-Éloi de Mayanne. Prise de son Didier Sudre, Frédéric Joly, mixage Marie-Dominique Bougot, réalisation Jacques Taroni.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 27 septembre 1994. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.